On vous l'avait bien dit que Daniil Medvedev allait donner des sueurs froides à Carlos Alcaraz et le Russe allait au-delà de nos espérances, sachant qu'il s'est imposé contre l'Espagnol. Concernant l'autre demi-finale, ben Shelton n'avait plus de forfait parce qu'il s'est fait cuire contre Novak Djokovic qui s'impose facilement en 3-7 contre l'Américain et qui calme un petit peu les ardeurs de Ben Shelton. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien ce soir. Je suis avec Josh. Salut Josh, comment ça va?
Salut Comte, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Fin de tournoi chez les hommes comme chez les femmes avec deux très très belles finales qu'on va analyser tous ensemble.
C'est clair. Alex va nous rejoindre en cours de route. Et c'est vrai que là, fin de tournoi, comme tu l'as dit, bientôt on va enfin pouvoir rembourser un petit peu ce crédit de sommeil, cette dette de sommeil en retrouvant des nuits un petit peu plus normales. Parce que c'est vrai que là, ça devient compliqué. Les cernes, bientôt, elles arrivent en bas. Et je pense qu'on va se régaler sur cette fin de tournoi avec deux très belles finales. Et nous, on se retrouve après le jingle. Là, vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Bonsoir à tous dans les commentaires. Très, très content de tous vous retrouver. Donc ça, on va se régaler. Et déjà, on peut d'ores et déjà vous l'annoncer, la finale de demain soir donc sera commentée en live. Logiquement, il y aura Louis et moi et peut-être d'autres. Je ne sais pas toi, Josh, si tu seras disponible pour la commenter. Mais on prendra l'antenne à 21h pour revenir un peu sur le tournoi. Et à 22h, on attaquera sur le Medvedev Djokovic. Donc, on espère que vous allez être nombreux. Et n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui veulent passer durant le live, parce que c'est vraiment un peu la fête du tennis, cette finale de Grand Chelem. Donc, si certains veulent venir un petit peu commenter avec nous, ça sera avec grand plaisir. Vous savez où nous contacter par mail, par Twitter, et on pourra vous inclure dans le live. Mais je pense qu'on va se régaler parce que ça va être de très, très belles finales, à commencer par celle de ce soir entre les dames. On va commencer encore une fois par les dames, sachant que c'est en termes de temporalité. Ça va se passer ce soir, Gauff contre Sabalenka, l'Américaine qui mène 3-2. Je t'avoue que je suis assez partagé sur cette affiche. Il y a la vidéo preview qui est en ligne. Je vous inviterai à aller la voir après le live. Toi, comme ça, qu'est-ce que tu en penses à chaud de cette affiche? Est-ce que tu arrives à dégager une favorite?
Effectivement, c'est assez compliqué de lire cette finale. Effectivement, bon, deux joueuses extraordinaires qui ont montré de très, très belles choses durant cette quinzaine. Une Coco Gauff qui est sur un run incroyable, je pense, le run de sa vie. Je crois 17 victoires pour une défaite sur les 18 derniers matchs, donc le truc de fou. Elle gagne Washington, elle gagne Cincinnati. Et là, voilà, elle fait un grand parcours. Donc, complètement mérité. Et plus que tenir son rang, elle est plus que confirmée. Je trouve qu'elle a quand même. Elle aurait pu perdre avant, potentiellement. Contre voilà, une Mourova, enfin, c'était pas fait des matchs comme ça, en plus contre une joueuse qui varie, ce qui aurait vraiment pu la faire déjouer, mais elle s'en est vraiment bien sortie, donc vraiment beaucoup de positifs pour Coco Gauff, à qui il reste une seule marche pour décrocher le Graal en plus chez elle, donc très intéressant de son côté. Et de l'autre, Sabalenka voilà, qui montre qu'elle fait partie des tout meilleures joueuses de l'année avec une certaine régularité. Elle a gagné en Australie et là elle montre que sur le dernier grand chelem sur dur elle est encore là, voilà, sa puissance parle pour elle, sa puissance fait mal à toutes les joueuses sur le circuit qu'elle peut rencontrer. Et sa puissance fait que voilà, elle est sur le toit du monde, ou presque. Donc, complètement méritée pour elle aussi. Maintenant, si on peut s'avancer un petit peu sur cette finale, c'est vrai que Gauff mène dans les face-à-face, mais là, on est sur une finale en grand chelem. Sabalenka a déjà gagné. Elle sait ce que ça fait de gagner un grand chelem. Elle sait ce que ça fait de servir pour le match, servir pour le titre de sa vie, comment débuter une finale. Gauff sait aussi ce que c'est de jouer une finale. Hein. Elle a joué à Roland en 2022 en finale contre Swiatek, mais c'est allé assez vite. Mais elle sait pas encore voilà, le frisson qu'une finale en grand chelem, surtout quand elle est proche du titre, elle sait pas encore ce que ça peut procurer comme émotion et comment ça va se répercuter dans sa raquette, dans sa main. Est-ce que le bras va trembler? Donc, pour toutes ces raisons, je vois un match quand même serré. Ça m'étonnerait vraiment que ça fasse 1h, 1h10 de match. Je vais mettre Sabalenka en 3-7.
C'est clair que ce n'est pas du tout évident à se mouiller. Et comme tu l'as dit, Livred, c'est vrai que Sabalenka a taille patronne, sachant qu'elle a fait au moins demi-finale dans chaque majeur cette saison. Ce n'était plus arrivé depuis Serena Williams en 2016. Donc vraiment, elle assume son statut et c'est totalement mérité, cette première place mondiale, qu'on aime ou pas son jeu. Hein, parce que voilà, c'est tout en puissance, en agressivité et pas forcément touché comme une Mourova ou une Ons Jabeur. Donc ça fait plaisir. Parce que voilà, on attendait ça. Et même Swiatek, qui a fait un très bon premier semestre, maintenant, elle commence un petit peu à décliner avec des matchs un peu aléatoires côté coup droit, où elle peut aller rapidement à la faute. Sabalenka, qui a failli sortir hein, en demi-finale contre Madison Keys, on n'attendait pas forcément un tel match de l'américaine, qui a joué merveilleusement bien durant un set et demi. Et au moment où elle a servi pour le match, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Elle a commencé à faire un peu plus de déchets, des fautes directes. Et derrière, Sabalenka, avec son expérience, elle a su en profiter et inverser la tendance. Même si l'américaine a eu de nouveau le break dans le troisième set, mais grosse performance en tout cas, quand elle a cette puissance, cette agressivité, que tout passe, qu'elle enchaîne les coups gagnants, ça fait très très mal. Elle a remporté 67% des points à la relance dans le premier set. C'était assez costaud quand même. Donc très très belle performance pour Sabalenka, qui va peut-être la lancer un petit peu dans son tournoi, sachant qu'elle avait eu un parcours relativement facile, avec seulement Kazakhstan, qui était 14e mondial comme principale menace, mais c'était pas folichon. Et de l'autre côté, il y a Coco Gauff qui a perdu quelques sets par-ci par-là contre des joueuses assez défensives. Je pense à Sigmund, à Wozniacki, à Mertens, mais qui n'a jamais été vraiment inquiété. On l'a pas senti en danger sur le point de rupture qui allait perdre ce match. C'était plus des moments d'inattention où côté coup droit, ça commençait un petit peu à trop caviarder. Même si on sait qu'avec Brad Gilbert, elle bosse énormément. Et cette semaine à Washington, où elle n'a pas concédé le moindre set, elle était sur un nuage. Mais ça reste quand même sa principale faiblesse, on ne va pas se le cacher. Et contre Mourova, déception par rapport à cette demi. On attendait beaucoup de ce match. Mourova, qui est une joueuse qu'on adore, qui a cette capacité et ce jeu de transition de la défense vers l'attaque. Mais qui là est passé un petit peu à côté, même si à chaque fois, elle a sorti un petit peu les crocs dès qu'elle était largement menée ou dans les money time sur les fins de set. Mais c'était insuffisant pour rattraper la copie globale de cette affiche. Si on part donc sur ce Gauff Sabalenka, donc toi tu vois plutôt Sabalenka en 3-7, vous êtes assez partagé dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses, ça va être les clés un petit peu de cette affiche, au-delà de la partie expérience que tu as rappelé, de la partie mentale, que Sabalenka elle sait ce que c'est gagner un grand chelem, qu'est-ce que tu penses que les deux joueuses vont mettre en place pour se faire des jouets?
Déjà Sabalenka, ça, c'est simple hein, si le service est performant, est efficace, c'est si elle a beaucoup de premières, elle va vraiment avoir un avantage, je trouve, par rapport à Gauff. Je pense que si le service passe pour Sabalenka, les jeux les plus serrés vont être sur le service de Coco Gauff et ça pourrait l'émousser à terme sur une finale qui rentre dans l'heure 30, les deux heures de jeu. Bien que Sabalenka peut parfois montrer de quelques faiblesses quand elle est moins régulière au service. Mais je pense que Sabalenka a vraiment une avance sur ce côté service et efficacité qui lui permet vraiment de boucler ses jeux de service rapidement. Ensuite, pour Coco Gauff, forcément, qui dit gros service de Sabalenka dit retour efficace obligatoire. Quand je dis retour efficace, c'est au moins de les mettre dans le court et si possible avec beaucoup de longueur. Ça va lui permettre d'éviter de se prendre des rafales dans tous les sens. Et elle, Coco Gauff, va falloir qu'elle varie un maximum pour que Sabalenka vraiment ait une balle différente sur chaque frappe qu'elle va jouer. Sinon, si tu lui donnes des balles molles en milieu de court, elle va en faire de la chair à pâté et je pense que ça peut aller assez vite. Donc Gauff aussi devra être performante au service, on sait qu'elle peut envoyer vraiment du lourd. Faudra que le coup droit tienne évidemment la route et aussi il faudra qu'elle monte au filet pour mettre un maximum de pression sur la Biélorusse. Donc c'est la clé, ça reste comme dans beaucoup de rencontres, ça va être le service de chacune et aussi la capacité de varier et de surprendre l'adversaire, notamment en montant au filet. Et Sabalenka, ça va être son niveau tennistique, à savoir service, revers, voir comment elle va envoyer la sauce comme elle sait le faire. Et pourquoi pas elle aussi venir au filet, mais vraiment, pour moi, Gauff doit absolument venir faire mal à Sabalenka en la surprenant, en variant et en montant au filet.
c'est clair. Après, bon, ça va dépendre de son jour côté coup droit. Parce que même si elle progresse, et on sent toutes ces évolutions, tu as rappelé sa série de victoires, son titre à Cincinnati, à Washington, bon, cette seule défaite contre Pegula. Mais voilà, son coup droit reste quand même sa principale lacune. Quand elle a des balles très puissantes, très en rythme qui arrivent dessus, ben, c'est compliqué avec sa gestuelle, elle est un peu prise de vitesse. Et au contraire, quand c'est des balles un peu sans rythme, sans vie, ben, c'est compliqué pour elle de donner cette impulsion et de faire la différence. Bon, là, on a plutôt Sabalenka qui va jouer en puissance, je pense, sur cette diagonale coup droit qui peut la faire déjouer. Après, côté Coco Gauff, ben, c'est ses compétences athlétiques qui peuvent peut-être frustrer la Biélorusse de remettre une balle supplémentaire. On sait que voilà, il y aura peut-être un peu de tension et qu'elle peut caviarder quelques balles, Sabalenka, avec son jeu, même si, comme tu l'as rappelé, justement, elle a remporté déjà un titre du Grand Chelem. Donc certes, ce sera leur deuxième finale à chacune des deux joueuses, sauf qu'il y en a une qui en a gagné une. Et donc, ça fait toute la différence à la fin. Après, voilà, Coco Gauff sera portée par son public. Et comme je le rappelais en préview, finalement, elle n'a que 19 ans. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on la connaît, sachant qu'elle a performé à Wimbledon, elle avait seulement 15 ans. C'est ça qui est fou encore. Elle a une marge de progression qui est complètement notable. Mais à 19 ans, ben, je pense qu'elle a de quoi voir venir. Et c'est le futur du tennis féminin. Elle manque de régularité par rapport à son adversaire en grand chelem. Et c'est pourquoi j'allais plus sur Coco Gauff avec tout ce contexte. Même si c'est très, 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 très compliqué. Là, on est sur du 50-50 ou 51-49. Peut-être qu'il y aura un match à sens unique parce que l'une des deux joueuses va totalement passer à côté de l'événement. On espère un beau spectacle en 3-7. Mais voilà, on va voir la défense de Coco Gauff versus l'agressivité, la puissance de Sabalenka, à voir quel jour elle a au service. On sait qu'elle avait totalement martyrisé l'américaine à Indian Wells cette année avec un violent 6-0 où Sabalenka passait énormément de premières balles et c'était compliqué pour Coco Gauff qui était totalement déstabilisée. C'est plus la même depuis le premier trimestre, mais à voir si elle a su rattraper un petit peu ce retard qu'elle avait eu, sachant que, bah, comme tu dis, elle mène face à face, mais bon, non, avant, ce n'était pas la même Sabalenka qui avait encore ses problèmes de double faute, ou le match qu'elle gagne à Toronto, enfin, au Canada l'an dernier, l'américaine, il y a eu 34 double fautes entre les deux joueuses, c'est un match très compliqué, là, ça ne sera pas du tout pareil, on la sent beaucoup plus mobilisée, Sabalenka, donc ça va pas être évident, vous êtes assez partagé aussi dans les commentaires, je pense que, voilà, les deux arguments se valent, à voir ce que ça va donner. On espère en tout cas un beau match et encore une fois, ben, Coco Gauff a tout l'avenir devant elle par rapport à sa jeunesse. C'est ça qui est assez impressionnant de se dire, ben, il y a 4 ans déjà, elle faisait parler d'elle et elle faisait un 8e à Wimbledon.
Ouais, c'est complètement fou. C'est vrai que ça fait, si on suit de près ou de loin même le tennis féminin, t'as l'impression que ça fait des années, c'est vraiment le cas qu'elle est là et pas que dans le top 100, quoi. Elle va très très loin dans les tournois et elle a fait de nombreuses belles performances dans des tournois du Grand Chelem. Et depuis peu, voilà, il y a la carotte d'aller tout au bout d'un tournoi du Grand Chelem où il y a eu cette finale à Roland-Garros où voilà, elle perd contre une Swiatek qui ne perdait pas un match à cette époque. Voilà, elle n'en perd toujours pas beaucoup, mais voilà, tu sens que depuis un petit moment, Gauff s'approche de plus en plus de ce titre et ça pourrait être une histoire incroyable de décrocher son premier grand chelem à la maison devant son public. On sait que voilà, aux États-Unis, le tennis, c'est pas forcément le sport qui règne dans la planète, sur leur planète sport. Voilà, il y a le basket, le football américain, tout ce qu'on connaît. Et c'est vrai que pour des joueuses américaines, justement, qui percent et qui font leur trou, ça peut être compliqué avant d'acquérir une certaine cote de popularité qui engendre sur un support général vraiment du public. Bon, là, je pense vraiment qu'elle commence à vraiment être de plus en plus suivie et supportée par la plupart des fans de tennis américains. Mais voilà. Je pense que maintenant, on sait tous qui est Coco Gauff, à quel point elle est forte, à quel point elle a du potentiel et qu'elle peut aller loin. Et ça va être à elle d'écrire son histoire et sa légende, et ça passera par ce premier titre en Grand Chelem.
Pour terminer sur la partie des dames, peut-être ce commentaire et cette question d'extrême qui trouve que le tennis féminin est particulièrement irrégulier. J'ai envie aussi de te dire que le circuit ATP, c'est pas parce qu'il y a quelques joueurs qui sauvent un peu la face, comme Djokovic, Alcaraz et Medvedev, qu'il est beaucoup plus constant quand on voit un peu la tête du top 10 et leur performance en général cette saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ce commentaire d'extrême ?
C'est vrai que, bah, je vois quand même ce qu'il veut dire sur le côté voilà, irrégulier du tennis féminin. On sait que voilà, il y a beaucoup de têtes de série qui peuvent perdre assez tôt dans des grands tournois. Ce qu'on a un peu moins chez les garçons, même si bon, tu as quand même un Holger Rune qui perd au premier tour. T'as du monde qui ne tient pas son rang. Mais voilà, ça fait quand même quelques années que chez les filles, voilà, tu sais, on se dit souvent qu'il peut tout se passer et que c'est très très dur de prédire ce qui va se passer dans un tournoi du Grand Chelem. Après, chez les garçons aussi, tu as eu ce top 10 dans les années 2010 qui moi personnellement me faisait rêver avec le Big Four plus du Ferrer, du Berdy, plus de Tsonga. Et tous ces mecs-là, ils étaient en deuxième semaine de Grand Chelem tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit en Australie, à Roland, à Wim, à l'US Open, il n'y a pas un mec qui perdait en première semaine. Ou alors, c'était, voilà, ça arrivait, je ne sais pas, une fois sur cinq ou sur six. Enfin, il y avait une telle constance et une telle solidité de tous les plus grands joueurs sur le circuit, alors qu'à l'inverse, chez les femmes, tu pouvais avoir des vainqueurs différentes sur un même grand chelem. Tu vois, l'US Open, je prends l'US Open, chaque année, tu avais une fille différente qui s'imposait. Tu avais du Stevens, du Osaka, du Raducanu. Et si je remonte avant, c'est un peu pareil, hein, du Penetta. Donc, je pense qu'on a tous un peu en tête ce schéma, et cette différence entre les garçons et les femmes, même si ça tend, comme tu l'as dit, à s'équilibrer avec un top 10 qui commence à s'effriter un peu chez les hommes, avec cette perte justement d'expérience qu'avait le top 10 qu'on avait avant.
Salut Alex.
Salut les boss, désolé du retard.
Pour terminer sur cette partie féminine, bah Alex, tu vas nous donner ton pronostic entre Coco Gauff et Mourova avant qu'on switch du côté des hommes.
Moi je vois bien
Coco Gauff et Mourova, j'ai n'importe quoi, et Sabalenka.
Justement, moi je vois bien Sabalenka s'imposer, pas tant au niveau tennistique mais plutôt au niveau mental. Elle a rien à perdre en fait, elle est déjà assurée d'être numéro 1 mondial, alors que l'autre, elle a énormément de pression sur les épaules, il y a tout un pays qui la porte. J'ai vu Barack Obama, Michelle Obama cette semaine aller la voir, et je pense que ça peut la desservir. Voilà, on sait que c'est une joueuse qui est très jeune, qui n'a pas l'habitude d'avoir autant de pression sur les épaules. Là, c'est sa deuxième finale de Grand Chelem, mais c'est chez elle, et je pense que c'est plutôt un désavantage qu'un avantage. Donc je vais plutôt partir sur Sabalenka, mais après c'est vraiment un match ouvert, et c'est quand même difficile de dégager une favorite.
On a hâte de voir cette finale. Livred, on a bien vu ta question, on la prend pour tout à l'heure.
Est-ce qu'on sait, on sait si Serena sera dans le public ce soir, si des grandes...
J'espère, ouais. Elle va voir les matchs de Messi à Miami, donc elle a intérêt à venir voir les matchs de Gauff à l'US Open.
On va voir ce que... Mais ouais, ça sera à surveiller aussi pour la fameuse relève. Donc, on va tout de suite passer sur les hommes avec la finale Djokovic-Medvedev. On y reviendra un petit peu plus tard. On va revenir sur les performances des deux joueurs pour se hisser en finale, à commencer par Novak Djokovic qui a totalement éteint Ben Shelton. Alex, qu'as-tu pensé de la performance du Serbe contre l'Américain ?
Moi, je n'ai pas été impressionné par Djokovic lors de ce match, et puis même généralement lors de ce tournoi. Je ne trouve pas qu'il déploie un tennis fantastique, mais il n'a pas besoin en fait. Donc ça montre vraiment qu'il a une marge par rapport au reste du circuit. J'ai été déçu du match de Shelton, pour être honnête. Je trouvais qu'il forçait un petit peu son jeu. Mais voilà, comme à son habitude, Djokovic a été indébordable en défense. Il a très très bien retourné. Et ça s'est joué là-dessus en fait. Il a annihilé la principale force de Shelton, qui est son service. Et puis ce qu'on peut quand même noter, c'est que Djokovic a connu un petit relâchement dans le troisième set. Il a servi pour le match, ouais, il a eu des balles de match.
Il perd deux fois son service dans ce troisième set.
Et c'est exactement comme à Cincinnati contre Alcaraz. Contre Alcaraz à Cincinnati, il a des balles de match sur son service, il sert pour le match, il se fait débriquer sur un Djokovic match, exactement comme hier. Mais bon, comme à Cincinnati, il s'est imposé dans le tie-break. Mais voilà, Djokovic, il a des accomplissements toujours plus forts. 36 finales de Grand Chelem, 10e finale à New York, Grand Chelem de finale calendaire cette année, il a joué les 4 finales. C'est du délire. Et voilà, on peut que s'incliner devant le joueur que c'est.
Josh, au-delà de cette performance, j'ai envie de te poser une question sur un petit fait de jeu. Qu'est-ce que tu penses de la célébration de Djokovic à la fin du match ?
Alors, j'ai vu beaucoup de retours sur cette célébration. Beaucoup de gens indignés. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Vous vous rendez pas compte ? Oh là là, le manque de respect. L'humiliation. Mais les mecs, cette célébration, elle est exceptionnelle. Cette célébration, c'est juste il s'adresse pas à Shelton quand il fait cette célébration. Il s'adresse au public qui a été, mais je vais pas dire dégueulasse avec lui, parce que en soi, le public n'a pas énormément manqué de respect, à part le crier avant la seconde balle de Joko, ce qui est très moyen comme attitude. Mais Joko, il s'est contenu pendant tout ce match. Franchement, le comportement de Joko sur ce match, extraordinaire. Il sait que, voilà, il y a 3 ans, il a merdé en faisant n'importe quoi et en se faisant disqualifier, en agissant de manière honteuse. Et voilà, il n'avait tout simplement pas à faire ça. On peut dire c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard, t'as pas à faire ça. Là, le comportement était exceptionnel. Et à la fin, c'est juste, hey, les mecs, vous supportiez votre petit Benjamin, là. Et moi, voilà, je l'ai broyé, je l'ai crabouillé. Et hop, c'est moi qui éteins le téléphone.
Oui, mais après, c'est pas très classe. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, ça m'a fait rire. Mais je vois pas Nadal ou Federer faire ça, tu vois. Donc,
non.
Oui, mais ça donne du comment dire, ça donne plus des avantages, enfin des arguments pour ses détracteurs, tu vois. Il y en a qui vont dire qu'il fait tout pour se faire détester.
Franchement, si on prend ça comme argument,
non, mais c'est un parmi d'autres. Mais ouais, moi, j'ai bien aimé aussi. Moi, honnêtement, ça m'a fait rire qu'ils reprennent ça.
Ouais, moi, je suis assez partagé. Hein. J'ai un peu les deux avis. J'ai l'avis de Josh. Ouais, je trouve ça stylé, tu vois, qui raccroche comme ça par rapport à toute cette histoire, toutes ces péripéties. Et de l'autre, je me dis, putain, le mec, il a 36 ans, c'est un grand champion. Est-ce que c'est pas un peu immature de faire ça? Est-ce que tu as vraiment besoin de faire ça? Tu vois, je me pose un peu les deux questions. Je dis pas que c'est bien ou mal, hein, mais c'est vrai que je suis un peu partagé, tu vois.
Moi, c'est la poignée de main que je note, parce qu'à la limite, la célébration, bon, bah, c'est marrant, mais la poignée de main, pour le coup, elle est hyper froide. Et Djokovic, normalement, c'est un des joueurs les plus sympas au filet. En tout cas, il fait des gros câlins, des accolades et tout. Et là, hier, hyper froid la poignée de main. En plus, c'est un jeune, tu vois, Shelton, sa première demi-finale en Grand Chelem. Je pensais que Djokovic, il allait lui faire un grand sourire, donner des conseils au filet. Et Shelton, il lui jette un regard noir. Et c'est là où tu comprends que. En vrai, je pense qu'il s'est passé un truc pendant le match, tu vois. Je pense que Djokovic n'a pas aimé l'attitude de Shelton.
C'est passé un truc pendant le match ou peut-être avant match, on ne sait pas. Parce que, ouais, c'est très, très étonnant la manière dont ça s'est passé. Mais voilà, on dit Nadal, Federer n'auraient pas fait ça.
Oui.
Nadal et Federer, c'est pas Djokovic. Il faut bien se mettre en tête qu'il y a une frontière énorme qui sépare Nadal et Federer de Djokovic.
On a d'ailleurs fait une super vidéo sur ça.
Voilà, Djokovic, c'est le mal aimé, et justement, il a eu du mal à accepter ce statut qu'on lui a donné durant toutes les années 2010, où il a commencé à venir éteindre Nadal et Federer, qui étaient les deux rois aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, c'est très très bien qu'il commence à n'en avoir rien à faire d'être le mal aimé et de justement d'en rajouter une couche. Et c'est comme ça l'histoire, elle est écrite. Hein. C'est Nadal et Federer qui probablement resteront à 20 et 22. Nadal, c'est pas fini, mais ça va être très dur. Et Djokovic, qui est à 23, qui ira peut-être à 24, 25 et qui aura dépassé les deux. Mais dans le cœur des gens, ce sera toujours les deux qui sont les plus aimés. Donc Djokovic a juste rien à prouver à personne, et c'est juste un petit retour au public, voilà, qui était contre lui durant ce match, rien de plus.
Pour le coup, moi, je suis curieux de voir la réaction du public en finale face à Medvedev. Je pense que le public va s'en souvenir et supportera en masse Daniil. Moi,
ouais, va y avoir une belle, on va en parler, une belle. Une belle suite à l'histoire de 2021 avec cette finale. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer.
C'est clair, et justement, on va en parler. Donc l'autre, son adversaire, pas forcément attendu, Daniil Medvedev, qui s'impose en 4-7 contre Alcaraz. Quelqu'un dans les commentaires disait que personne l'avait vu venir. Alex, il y a des lives avant les 8e, je crois, on avait parlé. Et je vous avais mis en garde aussi dans ma vidéo où tout le monde m'avait dit en commentaire « Ah ah ah, il va prendre 3-0 comme d'habitude ». Et encore une fois, voilà, Daniil, on savait que c'était un tacticien, qu'il allait arriver avec des solutions contre Alcaraz. Les gars, il n'allait pas prendre toute sa vie 3-0 contre l'Espagnol. Hein. Il a un cerveau, le mec, c'est pas Roublev ou Jaliasim, hein, faut se le dire. Et Medvedev a fait une magnifique réaction d'orgueil avec un match parfait où il a peut-être atteint son pic de forme un peu trop tôt dans ce tournoi. Difficile d'enchaîner deux performances comme ça sur le tournoi. On aura l'occasion d'en reparler. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Et surtout, pour toi, qu'est-ce que Daniil a mis en place pour vaincre un petit peu sa bête noire de 2023?
Moi, je l'ai trouvé éblouissant. Il a réalisé le meilleur match de sa saison. J'ai été impressionné par Medvedev. Je trouve qu'il a mis une intensité exceptionnelle sur chaque point. Il avait réponse à tout, à la puissance phénoménale d'Alcaraz. C'était un mur en défense. Et j'ai trouvé, là où il m'a impressionné, c'est plutôt tactiquement, puisqu'il s'était fait rouler dessus en début d'année à Indian Wells et à Wimbledon. Et puis là, je trouve qu'il a vraiment changé tactiquement. Déjà, il a été beaucoup plus agressif avec son coup droit. Il a essayé de faire mal à Alcaraz avec son coup droit. Il a utilisé un petit peu plus du slice. Il a fait venir Alcaraz au filet avant de le passer. Il a très, très, très bien servi. Ça a été une des clés dans ce match. Et il a été impressionnant sur les points importants. Il a sauvé 8 balles de break sur 9. Donc, on a eu un Medvedev fantastique. Moi, je suis content. Tu l'as rappelé. C'est le joueur que je vois aller en finale dans cette partie de tableau. La finale que je vois depuis le début du tournoi, c'était une finale entre Medvedev et Djokovic. Donc, de ce point de vue-là, je suis plutôt content. Et petit spoiler, mais au début du tournoi, j'avais annoncé Djokovic vainqueur en finale de l'US face à Medvedev. Et puis là, dans ma vidéo preview, j'ai switché. Je vais aller sur Medvedev en 4 manches. C'est la vidéo qui va sortir juste après le live. Mais voilà, j'ai été ébahi par Medvedev. Et c'est de très bon augure pour lui avant la finale.
C'est clair. Et bon, comme certains le rappellent, il a quand même fait 10 doubles fautes. Et qu'il enfin, c'était pas une performance non plus au service où enfin, voilà, il aurait pu encore mieux servir.
82 derrière sa première.
Ouais, derrière sa première balle et 50% bon, derrière sa seconde balle, mais c'est moins pire que les 30% de Wimbledon. Ça avait été catastrophique. Tu l'as rappelé, et aussi le point qui a fait la différence pour moi, c'est vraiment ses revers longue ligne contre Carlos Alcaraz, où il a vraiment réussi à tenir cette diagonale et ensuite attaquer longue ligne. Ça fait très mal. On sait qu'Alcaraz, il a cette petite faiblesse sur ses coups droits en bout de course, où il a tendance à faire la faute. Et Alcaraz, j'ai trouvé qu'il a manqué de patience vraiment dans ce match en termes de construction de points. Il accélérait un peu trop vite, il se montrait un peu trop agressif, trop rapidement dans l'échange. Et contrairement à ce qu'on avait vu à Indian Wells, où c'était Medvedev qui s'était montré impatient et Alcaraz qui avait été patient, là on a eu l'inverse. Et Alcaraz, voilà, a commis pas mal de fautes, même si jusqu'au bout il peut revenir. Mais ça fait plaisir de voir Daniil proposer des solutions. On sait que c'est un fin tacticien. Toi, Josh, qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
Effectivement, c'était un très 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 beau match. Comme tu l'as dit, Alex, moi j'irais plus loin. C'était le meilleur match de Daniil Medvedev sur ces deux dernières années.
Je suis d'accord. L'un des meilleurs matchs de sa carrière, en tout cas. L'un des meilleurs matchs de sa carrière, c'est sûr.
Franchement, t'enlèves. Pour moi, depuis la finale qu'il fait face à Nadal à l'Australienne, t'enlèves ces deux premiers sets qui fait qu'il est extraordinaire. C'est son meilleur match sur 2022 et 2023. Effectivement, moi, c'est en coup droit qui m'a impressionné. Voilà, il a été stratosphérique, il n'a rien loupé. Il faisait le jeu avec son coup droit et il acceptait la bagarre coup droit avec Alcaraz. Ça, fallait quand même le faire. Dans le premier jeu, je commence à regarder le match, 3 doubles fautes, je me dis il va se faire éclater. Il arrive à conserver son service tout le long du set et à justement prendre sa chance au tie-break. Et derrière, effectivement, il y a eu quand même un coup de moins bien d'Alcaraz. Je ne sais pas si c'était un problème de concentration, mais Medvedev en a magnifiquement profité. Derrière, c'est un peu l'inverse qui s'est passé avec un Medvedev qui déconcentre un peu, un Alcaraz qui a un regain un peu de motivation et qui se dit bah, allez là, c'est pas fini. Mais derrière, ça s'est rééquilibré et Medvedev a été brillant. Si on peut faire un cap sur la finale qui arrive dimanche, c'est vrai que j'ai un peu peur pour Djokovic. Sa fin de match m'a un peu inquiété. Tu l'as dit, Alex, comme à Cincinnati, il a du mal à conclure, il a balle de match, il ne les fait pas. Et en l'occurrence, à Cincinnati, c'est Alcaraz qui est juste extraordinaire et qui l'empêche de conclure le match. Là, c'est lui qui se sabote tout seul, il fait n'importe quoi. Après, ça, voilà, il a quand même, on voit qu'il a quand même une tonne d'expérience, Djokovic, parce qu'il arrive à vraiment rester focus dans le tie-break et il ne donne pas une chance à Shelton. Shelton un peu décevant, effectivement, mais voilà, c'était juste la découverte du très, très, très haut niveau. Mais effectivement, Djokovic, je ne suis pas... Jack, ça aurait été Alcaraz, je t'aurais dit Alcaraz tous les jours. Là, c'est Medvedev. On connaît leur passif avec cette finale à l'US en 2021 où il y avait l'enjeu du Grand Chelem. Il y avait aussi effectivement cette finale à l'Open d'Australie où Djokovic a torché Medvedev en 3-7, c'était en 2021, il me semble.
C'est alors qu'il y avait cette inquiétude physique et qu'au final, il y a eu un set accroché et après…
Voilà. Mais là, effectivement, Djokovic, donc il est extraordinaire et il saura hausser son niveau de jeu. Mais Daniil Medvedev, s'il reste sur ses bases… Voilà, on a vu même contre son match contre Demi-Nor où il était malmené, où on s'est dit ça va être très compliqué. Et il a vraiment retourné le match d'une très très bonne manière. Là, ça va être un, si Medvedev reste comme ça et que Djokovic, justement, joue bien, mais peut montrer quelques trous d'air, ça peut être très intéressant. Et j'irai même sur un 5-7. J'irai sur un Djoko en 5-7.
On va justement aller sur un peu cette affiche. Donc juste pour répondre à certains commentaires par rapport à l'impression de Alcaraz, en tout cas c'est ce qu'on avait énoncé en début de tournoi où j'avais fait un titre un petit peu osé de dire que Alcaraz ne défendrait pas son titre à l'US Open quoi qu'il arrive, sachant que c'est pas arrivé depuis 2008, là où tout le monde disait il est jeune, il a le temps de récupérer, etc. Au final on s'était pas trop payé non plus, on s'est pas trop mal sorti dans cette US Open. Et Livret, je suis pas totalement d'accord avec toi, parce que c'est vrai que on a la culture du moment présent et de se dire il a pas fait une prépa de ouf avec ses défaites contre Dubinor et Zverev, mais faut pas oublier que le gars, après l'Open d'Australie et sa défaite contre Sebi Korda, c'est 25 victoires, une défaite sur dur, avec des titres à Rotterdam, Doha, Dubaï, Miami, et une seule déconvenue en finale à Indian Wells contre Carlos Alcaraz. Donc on savait qu'il pouvait très bien performer sur dur, c'était une menace. Là, on a été un petit peu trop pris dans la hype du moment présent, à se dire il a besoin de confiance. Là, franchement, depuis sa finale, enfin son titre à Rome, il joue pas très bien, même s'il y a eu cette demi à Wim où il joue personne pour y arriver. Ça allait être compliqué, plus ce tableau qui pouvait potentiellement lui poser des problèmes, et c'est ce qui a influencé un petit peu notre choix. Mais en tout cas, cette année, il a des repères solides sur dur, et je pense qu'il a déjà bien évacué ses désillusions à l'Open d'Australie 2022 contre Rafa, en témoigne son run incroyable sur le premier trimestre. Donc ça fait plaisir de le voir jouer les troubles faites sur dur. T'attends éventuellement Zverev l'an prochain? Ouais, bien sûr, on pourra en parler en fin de tournoi, mais c'est clair qu'il faudra miser sur lui.
Il fait un gros parcours puisqu'il bat Baez qui est sur 12 victoires de Suisse. Il bat le finaliste de Cincinnati de Minor. Il bat Rublev qui est quand même top 10. Il bat Alcaraz numéro 1 mondial. Alors que de l'autre côté, Djokovic, il a joué personne. Hein. Le meilleur joueur qu'il ait joué, c'était Fritz. Et puis après, si on se regarde honnêtement, le parcours de Djoko, c'est une blague.
Parce que et c'est surtout. Et tout. C'est surtout en fait qu'il faut se dire que Djokovic, il a joué que deux joueurs défensifs qui sont Djere et Zapata, qui sont à des années-lumière de Medvedev. Mais depuis, il a joué que des gros serveurs qui savent juste bourriner et pas faire d'autre, pas faire grand chose d'autre, Fritz, Shelton, etc. Donc ça peut le déstabiliser par rapport au fait que ça va être un joueur qui va le relancer. On sait que Djokovic, son pourcentage de première est pas oufissime depuis Wimbledon. Donc quelqu'un qui va lui mettre la pression sur ses engagements. Après, on sait que Djokovic, voilà, va être capable de mettre du service volé pour perturber Daniil. Mais c'est vrai que ça va changer un petit peu sur les bases sur lesquelles il était là depuis ses trois derniers matchs. Donc toi, Alex, donc tu nous as dit Medvedev en 4. Il y aura la vidéo preview, tu reviendras en détail sur tout ce que tu penses. Mais un petit condensé de ta vision de cette finale, ça serait quoi?
Moi, comme je te l'ai dit, je vois une victoire de Med en 4 pour plusieurs raisons. Déjà, son parcours. Je trouve qu'il joue très bien dans cette US Open, alors qu'à l'inverse, Djokovic n'a pas joué grand monde. Hein. Quand on regarde, c'est simplement Taylor Fritz qui l'a joué, donc il manque peut-être un petit peu de repères face à des top joueurs. Aussi, Medvedev m'a impressionné contre Alcaraz, donc c'est clairement pour ça que je le mets en favori de ce match. Il va avoir un rôle d'outsider qui lui convient bien, parce que c'est quand même Djokovic qui sera le favori de ce match. Djokovic a plus de repères à New York, il a déjà fait 9 finales, alors que Daniil en a fait que 2. Medvedev l'a déjà fait en 2021, il a déjà battu Djokovic ici même. Alors c'était un autre contexte, il y avait le Grand Chelem calendaire, mais certes, l'histoire change, mais en tout cas il l'a déjà fait, donc il peut tirer beaucoup de confiance de ce match. C'est le seul joueur à avoir battu Djokovic sur dur cette année, c'était à Dubaï, et c'est clairement l'anti-Djokovic sur dur. Hein. Pour moi, il fait mal à Djokovic, c'est sa principale...
C'est la kryptonite de Djoko. Hein.
C'est ça, pour moi c'est le principal rival de Djokovic sur dur, parce que sur dur il arrive à le dominer du fond du court. Quand Alcaraz bat Djokovic, déjà il l'a jamais fait sur dur, mais quand Alcaraz bat Djokovic, c'est pas qu'il arrive à le dominer du fond de course, c'est qu'Alcaraz se rue au filet, fait des amortis, enfin varie beaucoup, alors que Medvedev, il arrive vraiment à dominer Djokovic du fond. On sait que Medvedev monte très peu au filet, et voilà, pour toutes ces raisons, moi je vois Daniil Medvedev s'imposer en 4 manches.
J'avoue que je pense que ça va être un gros gros match. Après, voilà, tu l'as rappelé, il n'y aura pas cette pression. On sait que Medvedev sait comment battre Djokovic, très bien servir, jouer dans cette diagonale revers, jouer au centre comme il avait fait à l'US Open 2021, pas ouvrir d'angle côté du Serbe. Après, voilà, Djokovic va essayer de jouer sur la diagonale coup droit, là où Medvedev est le plus friable, le plus passif, faire les services volés pour justement profiter de la position lointaine. Donc, à voir quel jour. Dans quelle disposition sera Medvedev. Josh, j'ai envie de te poser une question. Tu vois le gros match, tu vois la menace Medvedev, mais est-ce qu'il n'a pas atteint son pic de forme trop tôt par rapport à ce match? On a dit que c'était l'un des meilleurs matchs de sa carrière en demi-finale contre Alcaraz. Je pense qu'il fallait ça pour battre sa bête noire de 2023, mais est-ce qu'il sera capable vraiment d'enchaîner coup sur coup deux performances de cet acabit face à un joueur justement qui n'a pas encore atteint son pic de forme?
Le pic de forme, ça reste une notion un tout petit peu abstraite, étant donné que si tu veux gagner un tournoi, il faut jouer un très bon tennis toute la quinzaine, et en l'occurrence, déployer ton meilleur niveau face à un Alcaraz. Je veux dire, il aurait joué moyennement face à un Alcaraz, il aurait perdu. En l'occurrence, il fait un très très bon match. Il va arriver sur Djokovic. Bon, il a de l'expérience, Medvedev. Il a fait plusieurs finales en grand chelem sur dur. Contre Djokovic, il en a deux. Contre Nadal, il en a deux. Donc, il sait ce que c'est, quoi. Il sait ce que c'est de gagner, il sait ce que c'est de perdre. Il sait ce que c'est de mener 2-7 à rien et de perdre. Il sait ce que c'est de gagner en 3-7, de perdre en 5. Donc, voilà, il a de l'expérience. Et en termes de niveau de jeu, ça ne peut que être encourageant, étant donné qu'il aura juste, entre guillemets, juste à surfer sur ce qu'il a fait contre Alcaraz. C'est vrai que Djokovic, il n'a pas atteint son pic de forme parce que ses adversaires n'ont pas pu le faire atteindre ce pic, justement. Il n'a pas eu de grande opposition. Vraiment, il a joué des joueurs même qui ont été un peu décevants. Hein. Fritz et Shelton, les performances de Fritz et Shelton, alors ça peut être la pression de jouer à la maison et de jouer le grand Djokovic, mais franchement, Djokovic n'a pas eu à déployer un grand niveau de jeu, contrairement à Medvedev. Donc, Djokovic a fait le boulot, mais Medvedev a fait le boulot et l'a fait mieux, entre guillemets, et a de meilleurs repères sur ce tournoi finalement que Djokovic. Donc voilà, ce qui me fait dire Djoko en 5, c'est quand même l'ultra domination de Djokovic sur le circuit et sur tout le monde, en vérité. Enfin, il est meilleur que tout le monde. Mais quand même, je vois une belle opposition de Daniil Medvedev, de par ce qu'il nous a livré sur cette demi, et même dans son tournoi, où il a des très bons matchs. Donc, c'est vrai que Djoko, il nous a pas fait rêver. D'un autre côté, Daniil, il est là et il nous a fait rêver. Mais pour moi, ça veut pas dire que forcément que Daniil va s'imposer en 3-7 parce que voilà, il est dans une meilleure forme. Non, la forme, c'est très très dur à vraiment calculer. Et c'est plus par opposition par confrontation. On peut voir où en sont les deux joueurs. Et pour moi, Djokovic, quoi qu'il arrive en grand chelem, c'est super fort. Et il faudra vraiment que Medvedev soit dans, il l'a dit en conférence de presse juste après son match, il faudra que je joue le tennis de ma vie. Même il faudra qu'il joue même encore mieux peut-être qu'il y a 2 ans en finale s'il veut avoir une chance de gagner. Donc voilà, Djokovic en 5 pour ma part. J'espère que ça va être un grand match. Parce que voilà, peut-être qu'on en parlera vite fait, mais c'est pas un grand chelem que je retiendrai si ça fait 3-7 dimanche.
Quoi qu'il arrive, ouais, peu importe la finale, je pense que ce sera pas un grand chelem qu'on retiendra, un peu comme les autres grands chelems qu'on a eu cette année. On aura l'occasion d'en faire le bilan en fin de tournoi. Déjà, un grand merci à vous tous parce qu'on est plus de 200, donc n'hésitez pas à liker, ça fait super plaisir. Germino, pour te répondre, c'est vrai que la donne sera différente car Djokovic sert mieux et un meilleur retour. Par contre, il n'a pas une arme offensive comme la Alcaraz qui permettait justement de faire la différence contre un joueur qui défend très bien comme Medvedev. Djokovic a beaucoup moins de puissance et on sait que Medvedev, dans cette diagonale revers avec ses balles très basses, très à plat, Djokovic il a du mal à réaccélérer, à contrer parce que c'est compliqué pour lui. Donc il va devoir essayer d'utiliser son slice qui peut perturber le russe. On sait qu'en termes de match-up sur dur, Alex l'a très bien dit, c'est très très compliqué comme peuvent l'être Bautista Agut. Notamment où ça fait toujours des gros thrillers parce que du fond c'est un sacré challenge et Medvedev ne fait pas la faute. Djokovic doit aller chercher les points et c'est généralement le Serbe, en tout cas dans les victoires qu'a eu le Russe, qui craque, et avoir la performance qu'a Medvedev au service et côté coup droit qui vont un petit peu conditionner ce match. Et comme tu l'as très bien dit Tof, c'est que le Medvedev Djokovic ne va pas se jouer à la même horaire que le Medvedev Alcaraz. Ça va jouer à 22h, pas à 1h du matin, dans des conditions un peu plus chaudes. Qui ressembleront plus à ce qu'il a fait contre André Rublev. On sait qu'il a très très mal digéré ses conditions dans ce match, donc ça aura aussi son importance. Là où Djokovic, même s'il a eu du mal à Cincinnati, globalement dans les matchs qu'il a joué en, en journée. Il n'a pas eu trop de mal contre Fritz ou Shelton à subir ces conditions, et je pense que ça aura son importance.
Et puis il y a l'historique de Djoko en finale de l'US Open qu'on peut prendre en compte aussi. Djoko, c'est 9 finales à l'US, mais c'est 6 défaites en finale. Et pas toujours face à des Nadal ou des Federer. Parfois, justement, il y a un Medvedev, il y a un Wawrinka. Et ça, il y a un Murray aussi, ça joue, tu vois. C'est quand même un facteur à prendre en compte. Moi, je ne serais pas surpris qu'il en perde une 7e. Parce que c'est fou de se dire qu'il a disputé autant de finales à l'Open d'Australie qu'à l'US Open. Mais à l'Open d'Australie, il est à 10 sur 10. Alors qu'à l'US Open, il est pour l'instant à 3 sur 10. Enfin, 3 sur 9. Donc, c'est un facteur à prendre en compte. Et voilà, il a plus d'expérience que Medvedev, certes. Mais à l'US Open, il est plus souvent du côté du loser. Donc, à voir comment ça va être demain.
Et du coup, pour mon prono, donc c'est vrai que je ne me suis pas prononcé. Je vois une victoire de Djokovic en 4-7. Pour moi, ça va être l'histoire, le storytelling de se dire, voilà, il est maudit un peu à l'US Open là, depuis 2018, son dernier titre contre Del Potro. Il y a eu cet abandon contre Wawrinka, cette disqualification en 2020, en 2021. Medvedev qui brise quand même son rêve de grand chelem. 2022, il ne peut pas rentrer sur le continent américain. Bah là, il rejoue contre Medvedev, celui qui lui a brisé un rêve. Et Djokovic, il pourrait s'imposer de nouveau à New York après 2018 pour un 4e titre contre Medvedev qui l'avait battu il y a quelques années, pour en plus égaler le record de Margaret Court et des 24e majeurs. C'est trop beau pour l'histoire, je trouve. Et je pense que voilà, ça va être Djokovic en 4, où je vois Medvedev avoir du mal à rééditer sa performance des demi-finales, et un Serbe beaucoup plus armé qui va sortir son meilleur niveau dans ce match, en tout cas qui va élever son niveau par rapport à ce qu'il a montré sur ses dernières performances. Et Medvedev qui ne sera peut-être pas au niveau qu'il a eu contre Carlos Alcaraz.
Par contre, il y a une stat de dingue dont on n'a pas parlé, c'est que Djokovic, c'est sa 36e finale en Grand Chelem sur 72 participations. Ça veut dire qu'il y a un Grand Chelem sur deux qu'il a fait dans sa carrière, il est au moins allé en finale, c'est colossal, donc ça fait 50% le taux. Et je me suis amusé à regarder pour les GOAT, il y a Björn Borg qui a fait mieux, Björn Borg c'est 57%, c'est délirant. Et Federer il y a 38% et Nadal 44%. Donc Djokovic est quand même un cran au-dessus, et un Grand Chelem sur deux, il a fait au moins finale, c'est du délire comme stat.
Non mais c'est totalement dingue. Enfin, s'il gagne demain, il y a des dingueries de se dire qu'il a gagné la moitié de ses grands chelems après 30 ans. Ouais, depuis 2018, c'est son grand retour. Il a gagné 12 grands chelems sur ses 19 participations. Enfin, à 36 ans, enfin, c'est des stats lunaires.
Hein. Là, c'est ça, cinquième finale à plus de 30 ans. Il bat le record de Federer, qui en avait fait 4, lui.
C'est clair. Et du coup, en veille, pour te répondre déjà, la finale de l'Open d'Australie se joue en night, alors que la finale de l'US Open se joue en journée. Il y a le vent, l'humidité, la chaleur, le fait que ça soit en fin de saison, tout ça, ça s'accumule.
Le public est très différent.
Oui, le public. Voilà, le public.
Chaud à New York.
Et David, en 2021, c'était trop beau. J'ai jamais été sûr de dire qu'il pouvait faire le grand chelem. Pour moi, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop de pression, de charge, plus avec les Jeux Olympiques. Donc pour moi, ça me paraissait vraiment compliqué en 2021, en tout cas le grand chelem. Et même cette année, heureusement qu'il n'a pas gagné Wimbledon, parce que je pense que ça lui fait le plus grand bien, qu'il arrive vraiment rechargé avec une certaine forme de fraîcheur qui, je pense, va être nécessaire pour cette finale contre Medvedev.
Donc vous voyez Djoko et moi je vois Daniil.
C'est ça, ouais. Et il y en a certains qui voient Medvedev dans les commentaires. Je pense que ça va être assez partagé. Dans tous les cas, on va vivre ça demain en direct. On compte sur vous pour que vous soyez au rendez-vous. Je pense que ça va être un gros match. Je voyais beaucoup qui étaient déçus de se dire que ça ne va pas être Alcaraz contre Djokovic. Mais au contraire, je pense qu'on ne perd pas au change. Ça, c'est sûr, par rapport au match-up. Après Medvedev peut se trouver en 3-7, hein, mais quoi qu'il arrive, c'est le seul joueur à l'avoir battu sur dur cette saison, hein, c'est pas Alcaraz, c'est Medvedev. Il faut quand même bien le rappeler, il l'a déjà battu en finale à l'US Open. Les deux se connaissent par cœur. En plus, Medvedev a trouvé son meilleur niveau au meilleur des moments, et Djokovic va peut-être trouver son meilleur niveau au meilleur des moments, c'est-à-dire en finale. Donc on a hâte de voir ça.
Medvedev à l'US, c'est costaud quand même, hein. Le mec, il fait finale en 2019 contre Nadal, une finale épique, il revient de 2-7 un break, il fait 2000 l'année d'après, il gagne en 2021. Il y a juste l'année dernière, il fait un petit flop contre Kyrgios, mais hormis cette année-là, justement, à l'US, c'est quand même très très costaud.
C'est son meilleur grand chelem, donc voilà, c'est top. Et tac, tu me demandais, pour les dames, on est partagé, je vois plutôt Gauff, mais sans grande conviction, et mes deux collègues sont plus sur Sabalenka, mais c'est pas évident en termes de pronostic. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur ces deux finales. On peut répondre à vos questions. Et Livred, j'avais noté ta question que tu nous avais posée, donc maintenant qu'on a un peu de temps, sachant qu'on s'est prononcé sur les deux finales, par rapport à la réponse de Gaël Monfils au propos de Patrick Mouratoglou. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette petite pastille vidéo. Alex, tu te vois hocher la tête, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, je suis d'accord avec lui. Enfin, tu parles du fait où il dit qu'il n'a pas gagné de grand chelem parce que les quatre autres étaient meilleurs.
Mais c'est ça, ouais, même... c'était sa réponse. Il y avait une pastille vidéo là, qui a circulé où il répondait au propos de Patrick Mouratoglou.
Je suis d'accord avec lui. En fait, il leur presse plutôt des louanges. En fait, il dit grâce à eux, ok, je les ai pas battus, ok, j'ai pas gagné le grand chelem, mais je suis devenu un meilleur joueur, je suis meilleur que 90% des joueurs sur le circuit, j'aurais jamais atteint ce niveau sans eux, et c'est vrai. Et je me souviens aussi que dans cet extrait, il dit qu'en France, il y a pas mal de gens qui sont venus le voir en lui disant « Écoute, t'es un showman extraordinaire, t'as un physique de ouf, comment ça se fait que t'es pas gagné un tournoi du Grand Chelem ?» Et en fait, il dit « Bah, y a pas que... Oui, certes, enfin, je suis un athlète incroyable, machin et tout, mais il se met pas trop en avant, mais il dit « Mais il n'y a pas que ça, il y a une expérience, il y a un mental, il y a plein de trucs que j'ai pas, et justement que ces quatre-là, que ces quatre mecs-là qui sont des légendes absolues ont, et c'est pour ça que c'était compliqué d'être à leur niveau. » Et il dit qu'en fait, il y a qu'un seul joueur qui... sur les 20 dernières années, qui peut potentiellement intégrer ce club très fermé. Là, c'est Alcaraz, justement. Il reconnaît un petit peu Alcaraz comme ça. Mais de manière générale, ouais, je suis d'accord avec son propos dans sa vidéo.
Et c'est clair que bah, ça fait écho au propos qu'il avait tenu à notre micro en mai dernier. On l'avait rencontré au Challenger Dex, où justement, il insistait bien sur ses légendes. Enfin, que c'est des légendes, ces bonhommes, et que concourir en même temps qu'eux, c'est très, très compliqué. Déjà, on voit là, tous les joueurs en ce moment, il n'y en a qu'une qui joue, c'est Djokovic. Il galère comme pas possible. Enfin, c'est voilà, on en parlera demain plus en longueur, mais c'est cataclysmique le niveau du top 10 hein, derrière ces joueurs-là, parce qu'il y a pas de tactique. Vous avez
l'interview de Tony Nadal alors.
Comment?
Vous avez dû voir passer. Vous avez vu passer l'interview de Tony Nadal sur le niveau du top 10 justement?
Oui, oui, c'est là où il dit que Djokovic était meilleur il y a 5-6 ans.
Bah moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit dans son interview. Enfin, surtout sur le niveau du top 10. Il dit qu'en gros, il y a 10 ans, Berdych était plus fort que Rude, que Wawrinka, c'était plus fort que Rublev.
Ça fait écho au propos de Josh. Hein. Certes, il y en a des gars qui vont dire Berdych, Ferrer, c'est n'importe quoi, quoi. C'est des chefs par rapport à ces bonhommes-là. Sauf que comme Josh l'a rappelé en début de vidéo, c'est que ces gars-là, ils étaient quand même en deuxième semaine. Hein. Ils ne perdaient pas contre des randoms au premier tour. Ils étaient au rendez-vous. Alors certes, les matchs n'étaient pas favorables contre le Big Four, mais ils étaient là. Et déjà, à cette époque, on se plaignait qu'ils étaient trop faibles, mais c'était beaucoup plus élevé que ce qui n'en paraît maintenant. Et pour rebondir sur ce que disait Tony, c'est vrai que Djokovic a progressé au service, à la volée, côté coup droit aussi, mais les compétences athlétiques qu'il y avait il y a 5 ou 6 ans, c'était tout simplement monstrueux. Son niveau de 2011 est totalement lunaire, même si maintenant il a progressé sur d'autres aspects de son jeu, mais par rapport à ce qu'il faisait en 2011... je pense qu'il était bien meilleur. Je ne sais pas toi si Josh, t'es d'accord avec ces propos de Tony.
Déjà sur mon fils, il a donné une très très bonne réponse. D'ailleurs, allez voir la vidéo cette interview de Patrick Mouratoglou, enfin ce dîner, on va dire, ce dîner intime entre Patrick, Gaël et Benoît Paire, très intéressant, où ça parle sans contrôler un peu les déclarations. Et effectivement, mon fils l'a dit, il y avait juste des mecs qui étaient plus forts que nous, point final. Et faut bien se rendre compte qu'un Ferrer n'a pas gagné de grand chelem. Un Berdych n'a pas gagné de grand chelem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau. Nishikori n'a pas gagné de grand chelem. Si on se rend compte du niveau. Et encore plus aujourd'hui, Tsitsipas et Zverev n'ont pas gagné le Grand Chelem. Et moi, aujourd'hui, je suis pas prêt à signer que Tsitsipas et Zverev gagneront un Grand Chelem dans leur vie.
Mais ça, c'est leur faute. Tsitsipas et Zverev, c'est un peu leur faute. Alors, il y a 10 ans, ceux dont tu viens de parler, les Berdych et les Ferrer, c'était pas vraiment de leur faute. Il y avait toujours
Federer. Pourquoi c'est leur faute? Pourquoi
c'est leur faute? Federer, il joue plus. Nadal, il est blessé depuis 2 ans. C'est maintenant qu'il faut gagner un Grand Chelem. Tu vois, Tsitsipas, le mec,
Mais ils n'y arrivent pas parce qu'à chaque fois, il y a quand ils étaient, on va dire, quand il jouait très 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 bien un Tsitsipas en 2021, t'as quand même un Djokovic qui lui barre la route à Roland-Garros alors que le mec est tout proche de gagner.
Oui mais regarde, il a qu'une finale de Grand Chelem Tsitsipas. Le mec, il a 25 ans, 26 ans.
Il en a deux maintenant. Ouais, il en a deux maintenant, c'est cataclysmique. Il en a deux, mais c'est son niveau est cataclysmique. Enfin, c'est faille technique. Ce qu'il propose, sa régularité, enfin, le fait que maintenant, bon, il soit plus Badosa que tennis. Après, t'as Rublev. Qui certes est régulier en quart de finale, hein, c'est très bien, mais bon, il a un plan A, mais on est toujours à la recherche de son plan B. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous pouvez l'aider sur ça, mais c'est compliqué. Après, tu as d'autres joueurs comme Casper Ruud, qui a son pic de forme en exhibition en début d'année, mais maintenant, il n'y a plus personne. Fritz, bon, n'en parlons pas de lui. C'est catastrophique, hein. Franchement, ce sera mon coup de gueule demain quand on fera le bilan, mais cette année, heureusement qu'il y a Alcaraz et Djokovic et Medvedev sur dur, sinon c'est l'une des pires années, je pense, en termes de niveau pur tennistique.
Non, mais je suis d'accord. Moi, l'interview de Tony, je suis complètement d'accord avec lui. Hein. Le niveau du top 10 était beaucoup plus impressionnant il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et les joueurs étaient plus techniques. Aujourd'hui, tu as juste besoin d'être très puissant, très costaud. Tu tapes très fort. je vais caricaturer, mais en gros, un Medvedev, un Zverev, un Berrettini, alors qu'il y a 10 ans, les Ferrer, les Berdych, les Davydenko, ils étaient beaucoup plus techniques. Et je regrette justement ce changement, en fait. On voit que dans. Bon, c'est un constat qu'on peut élargir.
Ferrer a fait des quarts, si je ne dis pas de bêtises, Ferrer a fait des quarts à Wimbledon. Non, mais voilà, maintenant, est-ce que Casper Ruud. Voilà, il faut réussir à comparer. Et c'est vrai que. On ne peut pas, enfin, voilà, comme je le dirai demain, mais Djokovic et Alcaraz, c'est l'arbre qui cache la forêt et le néant qu'il y a en ce moment dans le top 10.
Oui, complètement. Et par contre, ce qui va être intéressant aussi, c'est la bataille pour la fin d'année pour la place de numéro 1 mondial. On a clairement une bataille à 3 qui se dégage parce que Medvedev est aussi dans la discussion. Et s'il venait à s'imposer demain, il a 2000 points de retard à la race sur Alcaraz et Djokovic. S'il gagne demain, il réintègre quasiment le trio de tête. Quand on sait qu'il y a la saison sur indoor qui arrive, on sait que Medvedev, il a déjà été titré au Masters, il a déjà été titré à Bercy. Donc voilà, le match de demain, un des enjeux de ce match, c'est aussi qui va finir l'année à la place de numéro 1 mondial.
Ouais, bah ça paraît quand même, il aura, même s'il gagne Medvedev, il aura quand même 2000 et quelques points de retard, je crois.
Il aura 1000, plus que 1200 points, je crois, 1300 points, j'ai regardé tout à l'heure. S'il gagne.
Mais à la race ?
À la race, ouais.
Ouais, à la race, ouais, mais il doit défendre 750 points, je crois, sur la fin de saison.
Il a que Vienne. Il gagne Vienne.
Il a 500 Vienne et après il a Astana, une demi-finale, je crois.
Oui, il a
Astana. Et il a des deuxièmes tours, je crois que c'est 750 points, alors qu'Alcaraz, il a que 360 points à défendre sur la fin de saison.
Mais
Djokovic, il a 2850 points, je crois, à défendre. Ouais, vous en pensez quoi, prometteur? Ouais, Mensik, très très prometteur. Voilà, demi à Wim. Agout a fait demi à Wim, c'est ça? Ouais, non, mais c'est ça. C'est clair qu'il y a plein de choses à dire. Voilà, il fait des quarts. Enfin, je pense qu'on pourra en débattre demain, vu qu'on aura une longue nuit qui nous attend. On va pas trop empiéter sur ce live. On est déjà en dessous des 1h, c'est top. Et je pense qu'on a dit les principales clés pour les demi-dames et les demi-messieurs. Enfin, les demi-dames, les finales dames. Enfin, je suis fatigué, les finales dames, la finale dame et la finale messieurs. On va voir, on espère avoir des beaux matchs. Quoi qu'il arrive, Alex sort la preview là. Dans la foulée. Ouais. Voilà, donc allez la voir. On se retrouve demain à 21h avec Louis pour faire un point sur la finale dame, le bilan du tournoi, reposer un petit peu ce débat qu'on vient de se faire. Et après, à 22h, on attaque avec le commentaire du Medvedev Djokovic. N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent passer dans le live, vous nous contactez sur Twitter, par mail. C'est la passion. Ouais, dis-moi, Josh.
Je veux juste remettre une petite pièce dans la machine histoire de clôturer. J'ai vu un commentaire de Stéphane Domstein qui dit « Si c'est Medvedev ou Alcaraz qui imite une célébration, tout le monde dira que c'est cool, mais dès que c'est Djokovic, on cherche tout de suite la bête. » Je suis complètement d'accord.
Oui, mais parce que Djoko, pendant 15 ans, a donné beaucoup d'arguments dans ce sens-là.
Donc, on perd une certaine objectivité sur les faits et gestes.
Non, mais je suis aussi d'accord. C'est sûr que si c'est Kyrgios qui fait ça, moi je vais être le premier fan. Alors que si c'est Djoko, je vais me dire putain, c'est quand même un chien, tu vois. Donc, oui, je suis quand même assez d'accord avec ce commentaire.
C'est clair, mais après, tu as le cerf vicieux et le serpent qui se met à la queue de se dire des fois, de Djoko, tu as l'impression qu'il cherche l'amour du public et qu'il y a cette incompréhension de pourquoi il n'a pas l'amour du public. Et tu as tout ça qui rentre dans la balance et tu dis ah ouais, mais c'est normal. Alors que Medvedev, je pense qu'il s'en contrefiche de l'amour du public, tu vois, par exemple. Et que du coup, tout ça, ça rentre pas forcément dans la balance. Enfin, après, c'est que mon point de vue. Mais c'est le cercle vicieux.
T'as raison, il y a cette petite ambivalence avec ce côté aimez-moi les gars, aimez-moi, je suis cool. Et d'un autre côté, quand il fait ressortir ses émotions et voilà, quand il fait un geste comme hier, bah moi ce geste il me fait sourire. Enfin moi j'adore ce genre de truc. Mais voilà, je pense qu'il le sait aussi qu'il y en a qui vont pas être très contents. Et que c'est une action de plus qui peut le faire détester auprès du public. Mais
moi, je trouve ça bien qu'il assume ce rôle de bad boy. Tu vois, Lendl, à l'époque, il le faisait. On n'a pas connu, on est trop jeune. Mais je trouve ça bien parce que on va se souvenir de lui comme ça. Plutôt que, tu vois, c'était fake quand il allait tout le temps chercher l'amour du public, faire ses célébrations et tout. Moi, perso, j'étais pas fan. Après, ça n'engage que moi. Alors que là, au contraire, depuis, je sais pas, un an, deux ans, j'ai l'impression qu'il fait plus trop tout ça. Enfin, il s'en bat un peu les couilles. Il laisse montrer un petit peu sa rage, sa colère. Il est plus chambreur. Et c'est bien en fait, c'est lui, tu vois, il est fidèle à lui, à ce qu'il est. On peut aimer, on peut ne pas aimer, on s'en fout, tu vois, mais genre au moins, c'est lui, tu vois, et tu peux pas vraiment lui reprocher d'être lui sur un court.
C'est clair. Et Tony, pour te répondre, les 15-20 premières minutes étaient dédiées à la WTA. On a pu parler en long, en large, en travers de cette finale. Je t'invite à revoir notre live. On a même commencé par les dames. Et là, bah, on a posé des débats. Il y avait beaucoup de choses à dire aussi par rapport à cette demi-finale Medvedev-Alcaraz qui, on ne va pas se le cacher, était beaucoup plus passionnante que les deux demi-dames qu'on a eues, même si le Sabalenka-Keys était très, très intéressant. Mais le Mourova-Goff voilà, n'a pas été à la hauteur. Donc, je t'invite à revoir notre live. Donc, nous, on se retrouve demain, 21h. Marquez ça dans votre agenda pour le live comments de la finale, messieurs, à l'US Open entre Daniil Medvedev et Novak Djokovic. Et après ce live, allez voir la vidéo d'Alex qui sort dans quelques minutes, qui va vous expliquer pourquoi Medvedev va s'imposer contre Novak Djokovic, pourquoi il a switché son choix par rapport au début du tournoi. Un grand plaisir, comme d'habitude, d'être avec vous tous. On compte sur vous pour demain. Les pouces bleus, l'abonnement, ça nous fait ultra plaisir. Et pour nous, ça nous permet d'avoir un indicateur que vous appréciez notre travail. Bonne soirée à vous, les gars, et bonne finale féminine. Et on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao tout le monde.
Bonne finale à tous.